citoyens du monde, une émission culturelle de partage et de voyage avec Natalka. Citoyens du monde, des portraits d'artistes, d'associations, de personnes d'ici et de là-bas, engagées pour un monde meilleur. Et c'est sur Radio Boomerang.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent.
Dans le cadre des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, la communauté haïtienne du nord de la France organise de nombreux événements autour d'Haïti. Une invitation à découvrir une culture, une histoire, des voix qui résonnent bien au-delà des frontières. Au Moxie Hôtel à Lille se prépare une conférence autour de Toussaint l'Ouverture suivie d'une projection. J'y ai rencontré Evry Archer, président de la communauté haïtienne du nord de la France, ethnopsychiatre et anthropologue. Il nous parle de son parcours, de la diaspora haïtienne, des actions de l'association et tous les événements qui auront lieu à Lille.
Papa loco, où c'est vent, où c'est n'allé, où c'est papillon, on a beauté, nouvelle bayadoué. Papa loco, où c'est vent, où c'est n'allé, où c'est papillon, on a beauté, nouvelle bayadoué, et tout ça qui dit bien.
Merci de m'avoir invité.
Alors, comment allez-vous?
Je vais très bien. Et ce qui est nécessaire pour exercer toutes les activités qui, en un temps très court, puisque nous avons un grand nombre d'événements, nous avons commencé le mercredi 20, en ce jour anniversaire de naissance de Toussaint l'Ouverture. Et déjà le 20 mai 2010, nous avons l'association Communauté haïtienne du Nord de la France, CHNF, avait organisé une journée, un colloque qui était présidé par Pierre Mauroy lui-même. Et je pense à lui ce soir parce que je le vois encore entouré de Jean Médélus, un médecin neurologue, qui a créé en France la psycholinguistique et qui était donc à côté de Pierre Mauroy et moi de l'autre côté. Et c'était un événement franchement très inoubliable, tout à fait inoubliable. Et j'étais surpris par sa connaissance de Toussaint l'Ouverture. Mais j'ai eu tort d'être surpris parce qu'en fait, Toussaint l'Ouverture est extrêmement connu et agissait, a agi toute sa vie dans le même sens que Pierre Mauroy, c'est-à-dire dans la libération des crises sociales, toujours dans le même sens, la protection des plus faibles.
beaucoup. Alors avant de venir, de revenir, tous les événements qui se préparent dans le cadre des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, hein, l'édition 2026, j'avais envie de vous demander, Monsieur Evry-Archer, un petit peu si vous pouvez nous parler de votre parcours. Je sais que ça fait 60 ans que vous êtes bientôt 60 ans en France.
Eh bien, je suis arrivé en France après mon baccalauréat et pour faire des études de médecine. Eh bien, j'en ai profité pour faire d'autres études comme la psychologie, les lettres modernes, la philosophie. Et j'ai été pendant 21 ans responsable de la psychiatrie en milieu pénitentiaire pour le Nord et le Pas-de-Calais. À l'époque, c'était deux régions séparées. Et il y avait en plus la Normandie. Donc, j'ai joué un certain rôle dans l'organisation de la psychiatrie en milieu carcéral, puisque c'est moi qui ai créé le service de psychiatrie en milieu pénitentiaire, notamment à Loos, à Sequedin, et qui est dirigé pendant 20 ans, plus de 20 ans, les équipes de psychiatrie qui intervenaient dans les autres prisons du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et de Normandie.
Vous avez quitté Haïti. Comment on fait pour garder le lien avec votre pays de cœur ?
Oui, Haïti reste bien entendu, vous avez bien dit, mon pays de cœur. Ça n'a pas été très difficile parce que la diaspora haïtienne est nombreuses, peut-être moins dans le nord, mais quand même, et parce que tous les Haïtiens que j'ai rencontrés dans cette région, eh bien, eux aussi se souviennent d'Haïti. D'ailleurs, il n'est pas possible d'oublier Haïti quand on y est né. Mais comme on a été bien accueillis en France et qu'on a pu vivre en France pendant très longtemps, plus longtemps que prévu à chaque fois, parce que la dictature de Duvalier a duré plus longtemps que prévu, Donc il y a beaucoup qui ont été obligés de rester, rien que pour protéger leur vie. Et j'en suis. Mais malheureusement, quelques années seulement après la fin de la dictature des Duvaliers, le pays a été envahi par des gangs, ce qui n'existait pas auparavant. Et certains jeunes qui venaient arriver beaucoup plus tard que moi ont dû rester aussi par peur d'être victimes de gangs. D'autant plus que les Haïtiens qui rentrent dans le pays sont très souvent en décalage avec l'évolution qui s'est suivie pendant leur départ. Et il y a quelquefois des divergences entre ceux qui ont subi toutes ces misères en Haïti et ceux qui reviennent souvent plus qualifiés et qui seraient tentés de les remplacer, surtout dans l'élite ou des fonctions publiques supérieures, alors qu'ils ont l'impression, les gens qui sont restés, d'être victimes d'une double injustice, et alors que ceux qui sont rentrés par patriotisme, justement, pour mettre leur connaissance au service du pays.
Il y a l'association communauté haïtienne du nord de la France, CHNF, la CHNF. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette association ?
Je ne me suis pas engagé dans cette association. J'ai contribué à la créer avec des amis dont certains sont partis pour ne plus revenir. Mais il y a encore des membres fondateurs qui sont restés dans l'association et qui sont actifs 39 ans après. Car la société a été créée il y a 39 ans, en février 1987, et nous avons organisé beaucoup de choses. Nos objectifs ayant été dès le début d'organiser des événements en France avec le concours de compatriotes exilés comme nous et d'autres, et de faire connaître Haïti lors de ces événements, et puis de réaliser quelques bénéfices à envoyer en Haïti pour aider des collectivités, rien que des collectivités, pas d'individus, des collectivités qui ont des besoins, et nous les aidons autant que possible et selon leurs besoins et selon leurs choix.
La CHNF, c'est une organisation de solidarité internationale issue de migration. C'est une OSIM. Quelques mots là-dessus ?
C'est une association, effectivement, qui a pour but essentiel d'aider les collectivités haïtiennes et en même temps de faire connaître Haïti ici. Et nous avons créé notamment une école, nous avons fait bâtir par nos moyens une école assez importante puisqu'elle peut accueillir jusqu'à 400 élèves. Elle en a moins actuellement pour différentes raisons. Et que le bâtiment est parasismique et paracyclonique parce qu'on sait que les cyclones et les tremblements de terre sont fréquents en Haïti, malheureusement. Et nous continuons à financer cette école, que ce soit en rémunérant les enseignants, en fournissant les fournitures scolaires, et puis je suis toujours un peu troublé quand on parle de ces enfants, parce que quand je les vois et que je sais que le fait d'être à l'école joue un certain rôle dans le fait qu'ils ne deviennent pas des délinquants ou qu'ils ne sont pas victimes des délinquants. Et je pense qu'il est très utile d'arriver à continuer, même s'il y a des difficultés croissantes, notamment pour avoir des soutiens en France, des subventions, des mécénats et des dons par des particuliers, car c'est de tout cela que vient notre capacité à aider Haïti.
Justement, je voulais vous demander comment on peut aider en tant que citoyen français, comment on peut continuer à soutenir l'association Haïti.
D'abord, en assistant à ces événements, parce que pour nous, c'est important de faire connaître le pays, son histoire, son art, sa culture. Il y a des dons des particuliers qui nous aident beaucoup, les cotisations des membres, et bien sûr, maintenant, de moins en moins, hélas, les subventions qui deviennent et le mécénat. Les difficultés récentes, les crises économiques dans le pays d'accueil ont forcément un retentissement sur nos possibilités d'aider. Par exemple, la construction d'une telle école, peut-être maintenant, n'aurait pas été possible. Mais comme elle a été construite entre 2012 et 2014, il y a des choses qui allaient encore.
Alors aujourd'hui, on se voit dans le cadre de Salk en Or, les semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, édition 2026. Pourquoi pour vous c'est important de participer à ces événements ?
Différentes raisons. D'abord, dans les statuts même de l'association, il est demandé, il est exigé de collaborer avec d'autres associations, surtout celles qui poursuivent des buts similaires. Ensuite, parce que je suis assez fervent de Toussaint Louverture, et Toussaint Louverture n'a pas seulement cherché à libérer les esclaves d'Haïti, mais à rendre leur indépendance et leur autonomie à toutes les populations d'Amérique latine et des Caraïbes. Dès l'indépendance d'Haïti en 1804, Haïti a continué à aider les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à obtenir leur propre indépendance, c'est-à-dire dans une lutte contre les puissances colonialistes de l'époque. Haïti a tellement aidé ces pays que, par exemple, le drapeau du Venezuela a été conçu et réalisé pour la première fois en Haïti, à Jacmel, une ville du sud d'Haïti. Et Simon Bolivar a été aidé militairement, notamment pour sa libération de la Colombie, de la Bolivie et d'autres pays d'Amérique latine. Au point que ces pays ont décidé, au début du 19e siècle, à s'arranger pour que les couleurs d'Haïti, bleu et rouge, se retrouvent dans leur propre drapeau. Il suffit de regarder, par exemple, s'il y a une exposition de drapeaux, de voir qu'il y a beaucoup de drapeaux avec le bleu et le rouge, ce n'est pas de l'Amérique latine, ce n'est pas une coïncidence, c'est une décision. Et très souvent, lorsque Haïti est en difficulté, les leaders d'Amérique latine prennent la parole et proposent leur aide. On peut encore entendre sur Internet, par exemple, les discours de leaders comme de Fidel Castro et autres parlant d'Haïti. Et j'ai souvent entendu, parce que ça m'émeut à chaque fois.
Alors, ça vous tient à cœur à l'association de mettre en place ces événements? Alors, il y en a beaucoup, on va dire, hein, beaucoup d'événements dans le cadre de Salk en Or. Ça reflète un petit peu ce que vous préparez dans l'année, hein, d'un point de vue culturel, un petit peu. Hein. On retrouve des projections, des conférences, des rencontres, de la cuisine, de la musique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce qui se prépare? Donc, on a parlé du 20 mai, mais le 23 mai, ça se passe à l'univers, Haïti, l'eau du chagrin. Donc, c'est un film du commandant Cousteau.
Oui, il s'agit de dire, de montrer que depuis des années, depuis même avant la fin du XXe siècle, on avait compris que le grand problème d'Haïti, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau, parce que le pays est très montagneux. Haïti veut dire en langue précolombienne terre montagneuse. Et terre montagneuse, c'est donc l'eau a tendance, la pluie a tendance à dévaler les pentes des nombreuses montagnes et même de ce qu'on appelle des mornes en Haïti, c'est-à-dire de petits monticules, de petites monticules en très grand nombre. Et l'eau dévale en général très vite dans la mer. Quand il s'agit bien du Nil, il y a des côtes vraiment très abrupte. L'eau tombe dans la mer et emporte la couche de terre arable. D'autant plus que les Haïtiens démunis, les plus pauvres d'entre nous, et utilisent le charbon de bois pour la cuisine. Et donc pour cela, coupent des arbres. Les racines des arbres ne retiennent pas les eaux. Et ça crée un problème extrêmement difficile à régler. Et nous aussi, nous avons un programme dans ce domaine. Et c'est une sorte de difficulté croissante. C'est peut-être même, on peut dire, le seul échec très net de l'association. C'est que nous n'arrivons pas, par exemple, à construire des puits, et même d'apporter de l'eau réellement potable aux enfants qui fréquentent l'école que nous avons créée. Donc, il y a le matin, on a choisi un film très ancien du commandant Cousteau pour montrer que le phénomène n'est pas nouveau. Lui aussi, déjà, ce film-là montre ses difficultés. Il y a un petit désaccord qui va être discuté pour la projection du film, parce que ce film avait tendance à tout mettre sous le compte de l'énormité de la population par rapport à la superficie, 30 000 km² seulement, comme la Belgique, par exemple, pour une population au moins aussi importante, sinon beaucoup plus importante. Mais bon, et l'après-midi, nous avons encore un autre film qui illustre l'importance de la question de l'eau dans la société, de la société actuelle encore.
Alors, on va passer tout de suite au 24 mai, des courts-métrages avec la présence de la réalisatrice. Peut-être quelques mots là-dessus?
Oui, si vous voulez. Nous sommes toujours dans le cadre d'Amérique latine et des Caraïbes, puisque Anne Delstanch, qui est une réalisatrice belge très proche de Cuba, présente un exemple d'organisation fraternelle, on peut dire, mais à laquelle elle, en tant que Belge, a participé dans une aide apportée par Cuba à Haïti. Donc c'est comme ça qu'elle connaît, mais elle le dirait mieux que moi, elle connaît très bien beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de Cubains et c'est en collaboration avec Cuba Coopération, une autre association très proche de nous.
Quelques mots sur le Brésil.
Un Brésilien serait mieux placé que moi pour en parler. Il s'agit d'un film. Il s'agit d'un film aussi commenté et par des Cubains et aussi avec la présence de Brésiliens. Car vraiment, c'est vraiment une organisation d'Amérique latine et des Caraïbes. Piloté par le CHNF pour ces événements-là.
On va parler surtout de l'événement du lundi 25 mai. lundi 25 mai, donc en présence de M. Louis Novolsi, qui est ambassadeur d'Haïti en France, c'est une journée culturelle et artistique consacrée à la religion vaudou. Vous, Evry Archer, vous intervenez en tant qu'ethnopsychiatre et anthropologue autour de la thématique croyance, rite et clergé dans le vaudou haïtien. Alors, tout un programme.
Oui, mais il ne s'agit pas d'une entreprise de séduction ou de conversion. Moi-même, je ne suis pas vaudouisant, mais je m'intéresse depuis très longtemps au vaudou, comme à d'autres religions, en tant que sujet d'étude. Et autant que possible, j'en exclus tout ce qui est foi et critique de la foi. Je respecte toutes les religions, mais il est important de savoir leur histoire, leur croyance, leur culte, et surtout en ce qui concerne le vaudou, l'art qu'il suscite. Car le vaudou, c'est une religion d'origine africaine, de toute façon, transportée en Amérique pendant toute la traite des nègres. Et ces nègres en question sont arrivés en Amérique, de l'Amérique du Nord jusqu'au Chili, et avec leur religion. Bien entendu, le code noir faisait obligation aux colons, et surtout aux prêtres colons, de baptiser les esclaves dès leur arrivée, même contre leur volonté ou sans leur volonté, ça n'avait pas d'importance, mais il faut absolument les baptiser, et surtout leur expliquer qu'ils doivent rester dans les conditions dans lesquelles Dieu les a placés. Bon, alors évidemment, de là on peut tirer beaucoup de conclusions, y compris politiques, philosophiques et autres, mais ce qui est intéressant, c'est comment l'une des choses intéressantes, c'est comment ces Africains arrivent à concilier la religion qu'on leur enseigne et la religion qu'ils ont hérité de leur propre culture. C'est ça que nous allons voir, et surtout après, comment ces religions ont été modifiées, le syncrétisme vaudou, catholico-vaudou, comme on dit, comment ça se remarque maintenant à Cuba, au Brésil et en Haïti. D'ailleurs, Clémia Godon, qui nous accompagne dans cette soirée, a fait sa thèse de sciences humaines sur ce thème-là, l'évolution pour Cuba. Et moi-même, j'ai fait d'ailleurs une conférence à l'Opéra de Lille il y a 38 ans, parce que vous venez de créer l'association, et j'ai enseigné le vaudou à l'Institut catholique de Lille, à l'Institut catholique de Lille, j'ai enseigné le vaudou pas seulement le vaudou, j'ai enseigné l'ethnopsychologie, et dans ce cours, dans ce programme de cours, il y avait 3 heures par an sur le vaudou.
Bode, bode, lumanjae, bode, bode, lumanjae, bode, bode, lumanjae, o sila de aguesa, bode, bode, lumanjae.
C'est toute une matinée, même une journée consacrée au vaudou.
Il y aura un film sur le vaudou et qui sera sur... Donc on discutera un peu avant qu'entre en scène l'art et les arts hérités du vaudou. Parce que le vaudou a ceci de particulier qu'il est créateur d'art. C'est une religion dansée et chantée. Et il y a plusieurs rythmes de chant et de danse. Et chaque chant et chaque danse, comment dirais-je, dépend d'une famille de lois. Les lois étant les équivalents, plus ou moins, des saints de la religion catholique. Contrairement à ce qu'on croit souvent, et justement, nous essaierons une fois de plus ce jour-là de montrer que on dit beaucoup de bêtises, le mot n'est pas trop fort, sur le vaudou. Parce qu'il y a une méfiance, il y a un mépris même, quelquefois, sur le vaudou. On parle souvent, par exemple, des dieux du vaudou. Il n'y a pas les dieux dans le vaudou, il y a un dieu. Et c'est jamais cité parmi les religions monothéistes. Jamais. Sauf par quelques anthropologues, quelques spécialistes de la question, qui a étudié sérieusement le vaudou. Mais il faut dire que il y a beaucoup de tourisme en jeu dans cette affaire, au point qu'en Haïti, par exemple, mais je pense que Clémia le dira aussi à propos du Cuba, il y a des choses que les Haïtiens, que les touristes haïtiens inventent pour les touristes, et qui ne sont pas dans la région vaudou. Une histoire de poupée, toute une série de voilà. Et je vais peut-être vous étonner, parce que tout le monde s'étonne quand je dis ça. La zombification n'a rien à voir avec le vaudou. Et récemment encore, il y a une exposition sur le vaudou à Paris. On n'a parlé que de zombification. Ce qui a mis en colère un grand nombre de gens qui s'y connaissent, notamment les Haïtiens, vaudouisants ou non, parce que la zombification en Haïti, c'est un crime puni par l'État, un crime puni comme tous les autres, et puis depuis très longtemps. D'ailleurs, on a aggravé la sanction en 1987, j'ai bien dit, sanction qui existait depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de livres, par exemple d'Alfred Metro, qui décrit le vaudou comme un crime, et c'est un crime, alors que le vaudou, c'est une religion reconnue par l'État. Alors quel État aurait fait du même phénomène à la fois une religion reconnue et un crime? Déjà, cet argument montre pourquoi s'obstine-t-on à parler de zombies, surtout dans les films, surtout les films américains, alors que ça n'a rien à voir. Rien, rien. Et c'est ce que je vais essayer de dire aussi le 25.
Le 25 mai, justement, voilà. Venez découvrir la vraie culture vaudou avec l'association Communauté haïtienne du nord de la France. Parce que le rôle de la musique, vous disiez, de la danse, est très important aussi dans... Et le 25 mai après-midi, ce sera donc avec des...
illustrations de musique et même de danse, dans le cadre du vaudou.
On va continuer avec le jeudi 28 mai. Le jeudi 28 mai aussi, un beau programme donc autour du chevalier de Saint-Georges. Qui est ce personnage en quelques mots, Évry?
En quelques mots seulement. Le chevalier de Saint-Georges était musicien, compositeur, professeur d'escrime et militaire. Il n'a pas eu la chance, lui, d'être né en Haïti, mais il est tout près en Guadeloupe. Et malgré la couleur de sa peau, il était déjà dans une cour royale, estimée et respectée, et ainsi que de l'armée. Il a joué un très grand rôle, notamment dans la musique, où il était le compagnon, en quelque sorte, l'ami de Mozart. Au point que je n'ai pas de preuves historiques, au point que quelques-uns des historiens de la musique disent qu'il y a telle ou telle musique qui, en fait, n'est pas de Mozart, ne sont pas de Mozart, mais peut-être de lui. Bon. Et de toute façon, on retrouve encore quelques-unes de ses réalisations. Et il est intéressant de le rappeler, parce que en plus, à Lille, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, s'il ne faut pas laisser cette révélation à ceux qui nous feront l'honneur de venir nous voir, mais il a joué un très grand rôle dans l'histoire de France. Et en plus, à Lille.
Donc c'est le jeudi 28 mai à l'hôtel Moxy, donc à partir de 18h30. Oui. Jeanne Romana, qui est invitée.
Il y a quelques livres sur le sujet.
Et puis une projection donc, du film Saint-Georges, le Mozart noir, à 19h25.
Et c'est en présence de laïcienne, artiste, de cinéma donc, actrice de cinéma, qui, dont le père est aussi fondateur de la CHNF.
On va finir avec En beauté, le samedi 30 mai. Ça se passe au cinéma L'Univers, donc à Lille. C'est toute la matinée et l'après-midi, enfin la journée, il faut prévoir.
Oui, en fonction de l'heure d'arrivée des auteurs. C'est une signature vente par des auteurs connus, haïtiens, tous haïtiens vivant à Paris en général, mais et en France. À Paris plus souvent, mais en France en général. Et comme Jacques Nézy, et comme Jean-Marie Théodat, Éric Sauré et Jeanne Romana, qui viennent. Mais Jeanne Romana a une petite difficulté. Tous ses livres sont vendus, l'éditeur n'a pas... Elle a du mal à trouver de nouveaux livres à mettre en vente, mais elle vient quand même pour en parler du héros.
Et donc l'après-midi, ça se poursuit un peu plus en musique, avec des jeux également.
Voilà, tout à fait. Donc on finit de cette manière-là, toute la participation de la CHNF à la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Alors un beau programme, en tout cas, ça donne envie. Peut-être un message à passer. Allez, un message, Evry, aux auditrices et auditeurs.
Je dirais que tous ces événements sont d'entrée libre et gratuite. Mais certains d'entre eux ont lieu dans des salles généralement petites. Même au cinéma L'Univers, il n'y a qu'une centaine de places. Donc, nous espérons la remplir. Et je dirais que le seul fait de diffuser ces informations, c'est déjà une aide apportée à l'association et surtout à la communauté et surtout aux personnes démunies, en difficulté et pourtant courageux et résilients, quelle aide.
Comment on fait pour vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, et si on souhaite rejoindre l'association, voilà, on est français ou bien issu de la diaspora haïtienne.
Alors nous sommes très ouverts. La moisson est abondante, mais les ouvriers manquent. Nous sommes très ouverts pour accueillir les volontaires haïtiens, jeunes, plus âgés. Non, tout le monde est bien reçu de l'association et participe à l'action. D'autant plus que nous déplorons qu'il y ait des petites associations qui font de leur mieux aussi, mais à qui manque telle ou telle pulsion. Nous qui avons l'expérience, nous sommes prêts à leur disposition. Sans aucune velléité de parfois il y en a qui craignent ça, de domination ou de se faire valoir par rapport à leur réalisation, etc. Donc nous avons un site chnf.fr, tout simplement, et puis il est possible de nous téléphoner, de participer surtout à nos événements. À chaque fois, nous mettons un registre à l'entrée pour que les gens inscrivent leurs coordonnées téléphoniques ou pour autres, pour les contacter. C'est ce que nous faisons.
Est-ce qu'on peut vous demander un petit mot en haïtien?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, comme je laissais entendre, il y a plus de 50 ans depuis que je suis ici, peut-être ai-je attrapé des accents français dans mon créole. Eh bien, je suis très content côté de l'interview ça. Mais j'espérais qu'après un pile monde dans chaque événement, et que tout bagaille a passé très bien.
Un grand, grand merci à vous en tout cas, Monsieur Evry Archer.
Je vous en prie, madame. Merci.
Nous te voulons, chère patrie, puissante et fort à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué.
C'était une interview d'Evry Archer, président de la CHNF, la communauté haïtienne du nord de la France. Haïti est mis à l'honneur à Lille jusqu'au 30 mai et puis prochain rendez-vous en octobre avec les semaines haïtiennes.
Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente.